France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Des images qui choquent Israël. Deux otages apeurés au milieu d'une foule hostile avant leur libération. Benjamin Netanyahou a retardé de quelques heures la libération d'une centaine de prisonniers palestiniens. Nous serons à Jérusalem dans un instant. L'homme qui brûlait des Corans en public en Suède a été tué par balle ce matin près de Stockholm. Salwan Momika, un chrétien irakien, avait provoqué de nombreuses manifestations de colère dans plusieurs pays musulmans. La France se cherche un budget. 7 députés, 7 sénateurs sont réunis en commission paritaire pour trouver un compromis. Le gouvernement devra ensuite affronter une probable motion de censure la semaine prochaine. La Guinée a vaincu la maladie du sommeil. Une grande victoire médicale saluée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est le dossier de ce journal signé Tara Schlegel. C'est donc un nouvel accroc dans l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. L'État hébreu a décidé de retarder de quelques heures la libération de 110 prisonniers palestiniens prévus dans l'après-midi. La raison, ce sont les scènes de chaos qui ont accompagné ce matin la libération de deux otages israéliens à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Une femme de 29 ans, Arbel Yehoud, et un homme de 80 ans, Gadi Moses. Des otages terrorisés, cernés par les miliciens palestiniens en armes et une foule déchaînée. On retrouve à Jérusalem Thibault Lefèvre. Bonsoir.
Bonsoir.
Thibault, Benjamin Netanyahou a rapidement dénoncé des scènes choquantes.
Oui, et Israël a alerté les médiateurs qu'il ne tolérerait plus à l'avenir de libération aussi chaotique. L'image du jour, c'est donc cette jeune femme, Arbel Yehoud, pétrifiée, qui fend une foule chauffée à blanc sous la protection précaire de miliciens islamistes masqués et armés pour rejoindre le cortège du Comité international de la Croix-Rouge. 7 des 8 otages libérés aujourd'hui, dont Arbel Yehoud, donc, étaient détenus par le djihad islamique palestinien, une organisation alliée du Hamas, mais plus petite et moins structurée. Conséquence, les libérations à Khan Younes au sud ont été bien plus désordonnées que celles du Hamas à Jabalia au nord un peu plus tôt dans la matinée. Les prochains échanges prévus samedi selon les termes de l'accord vont être observés de très près et peut-être même dès demain. Aucune confirmation pour le moment du côté des belligérants, mais l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, l'a assuré tout à l'heure à la chaîne ABC. Un Américain doit sortir de Gaza dans les 24 heures. Ils sont deux sur la liste des 33 libérables d'ici début mars. Sagi Dekelchen, 35 ans, et Keith Siegel, 64 ans.
Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem, merci. Au total, 8 otages à Gaza ont donc été libérés aujourd'hui. 3 Israéliens et 5 travailleurs agricoles thaïlandais. Il avait suscité la fureur des musulmans dans de nombreux pays en brûlant en public des exemplaires du Coran en Suède. L'activiste irakien Salwan Momika a été tué par balle hier soir dans la banlieue de Stockholm. De confession chrétienne, il avait médiatisé ses autodafés au point de mettre dans l'embarras le gouvernement suédois. Ottilia Ferré nous appelle de Stockholm.
C'est peu après 23h hier soir que la police a été appelée dans un quartier au sud de Stockholm après que des coups de feu ont été tirés à l'intérieur d'un immeuble. L'auteur des autodafés de Coran était en direct sur les réseaux sociaux au moment de la fusillade. Dans une vidéo diffusée par la presse suédoise, on peut apercevoir un policier apparaître dans le cadre du téléphone et arrêter le live TikTok. Une enquête préliminaire pour meurtre a été ouverte et la police a annoncé avoir arrêté 5 personnes dans la nuit avant de les placer en garde à vue. Salwan Momika et son comparse Salwan Najem avaient été renvoyés en procès pour incitation à la... Le verdict devait être rendu ce jeudi, il a donc été reporté. Momika était arrivé d'Irak en Suède en 2018 et avait ensuite obtenu un permis de séjour de 3 ans. Il s'était fait connaître du grand public à l'été 2023, lorsqu'à plusieurs reprises, et ce, en plein processus d'adhésion de la Suède à l'OTAN, il a brûlé des Corans en signe de protestation contre l'islam. Des actes qui avaient provoqué de vives réactions bien au-delà des frontières suédoises. Sa tête avait même été mise à prix, mais aucun mobile n'a pour l'heure été mis en avant dans la fusillade qui a coûté la vie à l'auteur des autodafés.
Ottilia Ferré, correspondante en Suède. Le premier ministre suédois, le conservateur Ulf Kristersson, évoque un lien possible entre cet assassinat et une puissance étrangère, sans plus de précision à ce stade. L'Allemagne est en pleine tempête politique avant les élections législatives du 23 février. Hier, les conservateurs et l'extrême droite avaient adopté ensemble au Bundestag une motion appelant au durcissement de la politique migratoire allemande. Une erreur impardonnable pour le chancelier Olaf Scholz, qui dénonce l'alliance entre la CDU de son rival Friedrich Merz et l'AFD, soutenue bruyamment par Elon Musk. Nouvel épisode aujourd'hui, Angela Merkel est sortie de sa réserve habituelle pour critiquer Friedrich Merz. Merz, l'ex-chancelière, rappelons-le, est membre de la CDU. On retrouve à Berlin Sébastien Baer. Bonsoir.
Bonsoir.
Sébastien, Angela Merkel dénonce elle aussi l'erreur de Friedrich Merz.
Ah oui, Stanislas, à l'exception de la campagne de communication qui a accompagné la sortie de ses mémoires fin novembre, Angela Merkel est d'habitude plutôt discrète. Cette prise de distance avec Friedrich Merz prouve donc son agacement. Dans le communiqué lapidaire publié sur son site internet ce matin, Angela Merkel critique le rapprochement entre la CDU et le parti d'extrême droite AfD. « Je crois que c'est une erreur », écrit-elle. Angela Merkel rappelle au passage à Friedrich Merz qu'il s'était lui-même engagé à éviter de former des majorités avec l'extrême droite. Forte de ses 16 années passées à la chancellerie, elle exhorte aussi les partis démocratiques à coopérer sans manœuvre tacticienne et de façon honnête et modérée. Pour l'ancienne chancelière, la classe politique doit être guidée par un seul objectif, empêcher à l'avenir des attentats meurtriers comme ceux commis ces dernières semaines. Cette intervention d'Angela Merkel est saluée ce soir très largement, notamment par les Verts et le SPD, le parti social-démocrate d'Olaf Scholz, qui juge aussi dans un texte diffusé sur la plateforme X que Friedrich Merz prouve par son comportement qu'il n'est tout simplement pas apte à devenir chancelier. La rupture de ce cordon sanitaire, de cette règle qui excluait depuis 75 ans toute alliance avec l'extrême droite, suscite l'indignation et la consternation. C'est toute une culture politique qui se trouve remise en cause. Bon nombre d'observateurs pensaient que la frontière entre les partis dits traditionnels et l'AfD était solide. Et bien depuis hier soir, cette digue est rompue.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. C'est une étape cruciale pour doter la France d'un budget cette année. La commission mixte paritaire réunie depuis ce matin à l'Assemblée, autour de la table 7 députés et 7 sénateurs réunis à huis clos pour trouver un compromis sur le projet de loi de finances 2025. Objectif, élaborer un texte commun qui sera soumis aux députés lundi, avec probablement le premier 49-3 de François Bayrou, obligé sans doute d'engager la responsabilité de son gouvernement, s'exposant ainsi à la censure. En attendant, les 14 parlementaires enfermés au Palais Bourbon devraient parvenir à ce compromis puisque la coalition gouvernementale est majoritaire dans cette commission. Mais l'alliance de la droite et des macronistes ne suffira pas à faire passer le budget. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de l'Assemblée. Il s'agit maintenant de trouver un texte susceptible de ne pas provoquer la censure du gouvernement. Et ça, Rosalie, c'est un peu plus délicat.
Les socialistes n'ont pas franchement le sourire quand on les croise le temps d'une suspension de séance. Le chef des députés PS, Boris Vallaud, ne s'épanche pas sur ce qui se passe dans le huis clos.
C'est assez mécanique, c'est une sorte de rouleau.
Ça penche, lâche-t-il encore, sans préciser de quel côté. Mais à en croire l'insoumis Aurélien Lecoq, lui aussi dans la réunion, pas du bon, en tout cas pour le PS.
Il ne se passe rien, il n'y aura pas de grand changement. Le gouvernement, les macronistes, les républicains se moquent éperdument des socialistes et de leurs tentatives de discussion, puisque le camp gouvernemental de M. Macron, de M. Bayrou, continue à avancer d'un bloc pour imposer un budget d'austérité.
Mais la commission n'est pas terminée. Après les recettes viendront les dépenses. Le PS a des revendications à pousser là aussi. Et à droite comme au centre, à ce stade, le sénateur LR Jean-François Husson préfère saluer le calme des débats.
On s'écoute et surtout on avance.
Un calme perturbé à la mi-journée par le RN Jean-Philippe Tanguy, persuadé que l'article 4 sur les revenus du nucléaire va augmenter les prix de l'électricité. Il promet, s'il est maintenu, la censure de la part de son groupe, avant de se montrer un peu moins affirmatif devant les journalistes.
Cet article 4 est insupportable pour l'avenir de la France. Voilà. Donc après, ce sera Marine Le Pen, Jordan Bardella qui décideront si le comportement du gouvernement et cette irresponsabilité méritent la censure ou pas.
Cela dépendra aussi pour le RN comme pour les socialistes de la suite des travaux de la commission qui vont se poursuivre encore au moins demain matin.
Rosalie Lafarge en direct de l'Assemblée avec les moyens techniques de Michael Simon. Alors pour renflouer les caisses de l'État, de nombreuses voix, surtout à gauche, s'élèvent pour taxer davantage les grandes fortunes. Selon une étude de l'Inspection Générale des Finances, les revenus et les patrimoines des Français les plus riches ont doublé entre 2003 et 2023. Les hauts fonctionnaires de Bercy ont épluché leur déclaration d'impôt sur la période. Avec ce constat, le taux d'imposition des plus riches a baissé, contrairement à celui des plus modestes. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir Stanislas.
Il est rare, Wafia, que des documents de l'administration fiscale relèvent de telles inégalités.
Les 0,1% de Français les plus riches sont donc de plus en plus riches, vous l'avez dit, leur fortune a augmenté de 5% par an en moyenne, contre 2% pour les autres foyers fiscaux. En 2022, les 40 000 foyers THR pour très haut revenu ont déclaré 42 milliards. Pour Quentin Parinello, directeur des politiques publiques de l'Observatoire européen de la fiscalité, ces données statistiques vont dans le sens d'un débat nécessaire sur l'augmentation de la contribution fiscale des plus riches, mais aussi sur leur patrimoine.
Ce que met cette note en avant en termes d'explosion des inégalités, c'est un peu que la face visible de l'iceberg. Il y a toute une partie de la richesse des 0,1% les plus riches qui n'est même pas pris en compte simplement parce que l'administration fiscale n'a plus les données pour le faire depuis la suppression de l'ISF. Et donc les dynamiques en termes d'inégalité qui sont montrées dans cette note, elles sont probablement beaucoup moins importantes que la réalité.
Des revenus majoritairement issus du capital et non du travail, et pour les foyers les plus riches, des revenus qui ne sont même plus taxables.
On a des foyers qui ont un très haut patrimoine, mais très très peu de revenus. Et ceux-là, ils sont beaucoup moins imposés. Et c'est pour ça qu'il y a tout un intérêt, évidemment, à repenser la juste imposition des très hauts revenus, mais ça ne suffira pas pour cibler les ultra-riches. Si on veut vraiment viser les 0,1, voire les 0,01% les plus riches, ceux qui sont le moins taxés aujourd'hui, il va falloir un outil qui prend en compte le patrimoine et l'ensemble du patrimoine, pas simplement le patrimoine qui est présenté dans cette note, parce que c'est une version du patrimoine qui est extrêmement amoindrie, qui ne prend pas en compte l'immense majorité du patrimoine des milliardaires français.
Selon les chiffres de l'Institut de politique publique, les Français payent en moyenne 50% d'impôts directs et indirects, quand les 0,1% des plus riches payent seulement 25%.
Merci Wafia Kenich. C'est une nouvelle phase dans le procès de Nicolas Sarkozy. Le tribunal correctionnel de Paris examine les possibles contreparties économiques au présumé financement libyen de la campagne victorieuse de l'ancien président en 2007. Avec cette question, ces contreparties relèvent-elles du pacte de corruption dénoncé par l'accusation ? À la barre aujourd'hui, Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne du groupe Areva, qui avait des relations plutôt tendues avec Nicolas Sarkozy. Au cœur de l'audience cet après-midi, cet accord de coopération nucléaire signé avec la Libye du colonel Kadhafi fin décembre 2007, quelques mois après l'élection de l'ex-chef de l'État. Le compte-rendu de Florence Turm.
Anne Lauvergeon ne s'en cache pas, ses relations avec Nicolas Sarkozy n'avaient rien d'amical. En 2007, le président élu m'a proposé d'être ministre, j'ai refusé. Elle raconte avoir essuyé peu après des remarques désobligeantes lors d'une réunion à l'Élysée. Puis, dit-elle, l'accès au président est devenu extrêmement restreint. Aucune ambiguïté dans ses propos, elle n'a été associée ni au mémorandum, ni à l'accord définitif signé en décembre 2007. Cet accord de coopération nucléaire indispensable pour travailler avec un pays étranger. Mais selon vous, la relation mercantile s'est inversée, intervient la présidente. Oui, en l'occurrence, c'était nous, l'entreprise Areva, qui disions attention, cela ne nous semblait pas raisonnable, on ne peut pas vendre du nucléaire à un pays qui ne fonctionne pas de manière rationnelle. À l'époque, nos relations avec M. Sarkozy étaient déjà assez dégradées, poursuit Anne Lauvergeon. J'en ai parlé à Claude Guéant, il trouvait que c'était formidable. Au passage, elle se souvient des intermédiaires extrêmement présents que j'ai toujours refusé de rencontrer. Dans son livre « La femme qui résiste », elle avait dénoncé un système parallèle opaque. « Et un manque de prudence que vous regrettez ?» lui demande encore la présidente. Cette fois, la réponse fuse, sans appel. Si on s'était engouffré dans la brèche ouverte, on aurait vendu un réacteur nucléaire au colonel Kadhafi et on se retrouvait après en guerre avec lui. Vu la suite des événements, heureusement qu'on ne l'a pas fait.
Florence Turm, depuis le palais de justice de Paris, le procès de Nicolas Sarkozy doit se poursuivre jusqu'au 10 avril prochain. Honte et indignité, les mots d'Emmanuel Macron sur le réseau X pour dénoncer les dégradations dans une nécropole dédiée aux tirailleurs sénégalais à Chasselet dans le Rhône. En début de semaine, plusieurs dizaines de plaques de sépulture ont été dégradées avec sur les murs d'enceinte des tags se référant au vaudou. Les Français savent ce qu'ils doivent aux tirailleurs sénégalais morts pour la France, a ajouté le chef de l'État. Cette étude inquiétante à présent sur les conséquences de l'éclatement familial. Un quart des enfants de moins de 6 ans vivant seuls avec leur mère n'ont aucun contact avec leur père. Une situation qui les expose à la précarité économique selon cette enquête publiée aujourd'hui par plusieurs ministères sociaux. Dans un cas sur trois, la monoparentalité est survenue avant le premier mois de l'enfant. La démographe Pauline Virot est la co-autrice de cette enquête.
Ces enfants-là qui n'ont plus de contact avec leur père, bien souvent, en fait, c'est une séparation qui a eu lieu avant même leur naissance, finalement. Donc, il n'y avait pas forcément eu de couple avant. Ces enfants-là, on voit qu'ils sont plus exposés à la pauvreté puisqu'ils ont un niveau de vie plus faible que les autres enfants des familles monoparentales. Et donc, nous, ce qui nous intéressait aussi dans cette étude, c'était de savoir finalement comment ces mères seules de jeunes enfants font pour organiser leur quotidien. Et un chiffre aussi qui nous a marqué dans l'étude, c'est concernant les mères de familles monoparentales qui sont en emploi. Et bien finalement, quand leur enfant n'est plus en contact avec le père, celles-ci font vraiment davantage appel à leurs proches, à leur réseau familial notamment, et en particulier aux grands-parents, et notamment aux grands-parents maternels, et encore plus exactement à la grand-mère finalement. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez nouveau pour nous, de pouvoir surtout quantifier finalement les choses.
La démographe et sociologue Pauline Virot répondait à Mathieu Laurent. Le dossier de ce journal est consacré à cette belle victoire médicale pour la Guinée et pour les autorités sanitaires mondiales. La Guinée, petit pays d'Afrique de l'Ouest, a officiellement annoncé ce matin l'élimination de la maladie du sommeil, maladie qui est l'une des 20 affections tropicales inscrites sur la liste des maladies négligées de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En effet, pendant tout le XXe siècle, la mouche tsetse a fait des ravages en Afrique subsaharienne en tuant des millions d'habitants sans que la lutte contre cette maladie soit une priorité. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Mais depuis les années 90, Tara, le nombre de cas a commencé à baisser et au tournant des années 2000, l'OMS et la Guinée ont lancé un vrai plan de lutte qui commence à porter ses fruits.
La Guinée, effectivement, était après la République démocratique du Congo le principal pays de la maladie du sommeil, des centaines de cas par an, mais l'année dernière, seulement 12 malades dépistés. Alors d'abord un mot de la trypanosomiase humaine africaine, c'est son nom savant, dû à un parasite, le trypanosome. Elle est transmise par la mouche tsetse. En fait, si cette mouche pique un malade et qu'ensuite elle se nourrit du sang d'une autre personne, elle lui transmet l'infection. Luis Pizarro est directeur de DNDi, ONG qui lutte contre les maladies négligées.
Malheureusement, ce parasite va vers le cerveau. Les gens vont avoir des troubles du sommeil. C'est pour ça qu'on parle de la maladie du sommeil. Puis, ils vont tomber dans le coma et ils vont mourir. Donc, au XXe siècle, ce qu'on injectait aux patients dans les veines, c'était un médicament à base d'arsenic. Il y en avait 1 sur 20 qui mourait de l'arsenic qu'on leur injectait. Donc c'était absolument catastrophique.
Depuis, le laboratoire Sanofi a retrouvé dans sa bibliothèque de molécules un produit efficace et un traitement a été développé par DNDi. Grâce à une cure de 10 jours seulement, on peut guérir de la maladie du sommeil. Une vraie révolution, mais qui s'accompagne aussi d'une lutte contre le vecteur, la mouche tsetse. Le généticien Bruno Boucheton de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, a passé des années à améliorer les pièges autour de Conakry pour attraper ces mouches.
On ne sait pas trop pourquoi, mais elles sont attirées par une couleur, un bleu très, très spécial. Et donc les mouches sont attirées par ces petits drapeaux bleus. Et quand elles se posent dessus, elles vont prendre une dose d'insecticide qui va les tuer. Donc dans la mangrove, il y a beaucoup, beaucoup de mouches et on ne peut pas aller partout pour poser ces drapeaux bleus. Donc en fait, on a ciblé là où les gens vont faire la pêche, où ils font la riziculture, où ils vont chercher de l'eau, où ils font la coupe du bois ou la production de sel. Et donc des drapeaux, on en met en moyenne à peu près 20 000 par an. Et il faut savoir qu'il faut les remplacer toutes les années.
Oui, au bout d'un an, l'insecticide n'a plus d'effet. Mais il y a encore mieux, Stanislas. Une nouvelle génération de médicaments arrive sur le marché, l'acosiborole, que l'on prend en une seule fois, explique Luis Pizarro de DNDi.
C'est-à-dire, on diagnostique le patient, on lui donne le médicament, basta, il est guéri, tout va bien. Et c'est celui-là que nous sommes en ce moment en train de l'enregistrer dans l'Agence européenne du médicament. Et c'est avec lui qu'on espère pouvoir éliminer partout la maladie du sommeil d'ici 2030.
Un objectif à portée de main, on dit ce matin Luis et Bruno, à Conakry, aux côtés des autorités guinéennes et de l'OMS, Stanislas.
La victoire de la Guinée sur la maladie du sommeil, un dossier signé Tara Schlegel. 3 départements restent en vigilance rouge pour les crues ce soir. L'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan. À Redon, la Vilaine pourrait atteindre un niveau historique dans les prochaines heures, mais fort heureusement, l'eau de la rivière monte moins vite que prévu. Demain, le temps sera plus calme. Les pluies seront moins intenses sur le nord-ouest. Ailleurs, un ciel généralement dégagé. Les températures sont en baisse pour les minimales de moins 1 à 10 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 5 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Alexandre Dang.